Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
Tout pour investir, les experts de l'IMO.
Nos expertes de l'IMO, Caroline Arnoux, de CAFPI, Bérénice Deville, de Radio IMO, et puis Deville Fleuriot.
Ah oui,
me précise.
Mon mari ne va pas être content.
Bérénice Deville Fleuriot, de Radio IMO, et puis Marie Cœur de Roy, notre Bernard Pivot des noms de famille qui est avec nous. Bon, très sérieusement, nous étions en train d'infuser le propos d'Arnaud, notre auditeur, qu'on salue, à notre discussion. Il nous dit en synthèse, si le prix des logements neufs est aussi élevé, cela est dû en grande partie au fait que le logement libre subventionne le logement social. De là à dire que le dispositif Pinel finançait le logement social, il n'y a qu'un pas. Arnaud, merci pour votre réflexion. Bérénice, une réaction s'il vous plaît.
Alors moi, je me suis entretenue avec Pascal Boulanger, le président des promoteurs, de la Fédération des promoteurs immobiliers. Et alors non, le coût de la construction, le coût du logement neuf n'est pas aussi élevé à cause de ça. En fait, le problème, c'est qu'il y a vraiment une inflation des matières premières. Donc ça joue énormément. Les promoteurs ont très peu de marge de manœuvre à cause de ça. On est dans un contexte de crise nationale, inflationniste. Donc ça joue énormément. Donc le prix du foncier est plus cher aussi. On sort d'un contexte économique qui était assez l'argent circulait, ça a fait gonfler les prix. Donc voilà, il y a plein de facteurs qui ont fait que le prix du neuf augmente, mais c'est clairement pas la solution.
Non, mais d'autant qu'en plus, moi j'ai envie de poser une question à notre auditeur et j'entends parfaitement ses arguments, parce qu'on le rappelle, le coût d'une opération, comment ça se passe pour le promoteur, et c'est Arnaud qui bosse dans le neuf, donc il m'interrompra de loin si je me trompe, mais c'est que quand vous vendez à des bailleurs sociaux du logement social, vous ne faites pas un immeuble que de logements sociaux, vous faites de tout. Et donc, les biens en logement social sont vendus évidemment moins cher que dans le logement libre. Et donc, pour équilibrer une opération, on va avoir des promoteurs qui vont peut-être, bon an, mal an, un peu élever le prix des logements libres parce que le logement social leur sera finalement rémunéré moins cher. Moi, la question que j'ai envie de poser à Arnaud, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait plus de logement social en France? Parce que est-ce que c'est pas toute la mécanique de l'équation budgétaire d'un promoteur qu'il faut revoir? Mais partir du principe que c'est parce qu'on fait trop de logement social alors qu'on n'a jamais eu autant de demandes
de
en attente de logements sociaux. Enfin, à un moment donné, il y a quand même un enjeu de juste loger le peuple français. Donc voilà, moi je pose la question. Je me pose la question si au lieu de faire des réformes au détriment de ceux qui sont le plus en besoin, on ne pourrait pas revoir l'équation budgétaire pour les promoteurs immobiliers.
Alors c'est la radio MRC. Maintenant c'est les présentateurs qui posent des questions aux auditeurs. Donc Arnaud, si vous voulez nous répondre, l'adresse, vous la connaissez puisque vous nous avez déjà joué en direct à bfmbusiness.fr, ou vous pouvez joindre également Marie en message direct
06.
Caroline, est-ce que vous avez une réponse pour Marie en attendant que peut-être que Arnaud, notre auditeur, nous réponde?
Non, on voit bien qu'on est quand même dans une équation très très difficile. On n'arrive plus à se loger. Les méchants propriétaires, c'est difficile d'avoir des crédits parce que vraiment on diabolise un petit peu ça. Mais les locataires. Je ne sais pas si vous avez vu les délais pour trouver une location dans certaines villes, c'est plus de 6 mois. Donc là, si on ne construit pas des logements ou si on ne rénove pas rapidement des logements, on va vraiment être dans une impasse extrêmement...
Et ça fait partie d'une réponse, Arnaud, je pense, à votre sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même produire du logement. Et encore une fois, on ne peut pas jeter l'opprobre tout systématiquement sur les bailleurs sociaux. Je vous rappelle quand même qu'ils ont aussi sauvé pas mal de promoteurs qui n'arrivaient tout simplement pas à vendre. Donc, même s'ils rachètent à prix cassé, ils rachètent quand il n'y avait plus un particulier pour acheter parce que les vannes du crédit étaient complètement fermées. Donc, de temps en temps, c'est chouette le logement social. Et puis, quand c'est les arrange, voilà. Donc, il faut trouver effectivement un équilibre. Puisqu'on parle logement neuf, je pense qu'il faut aussi qu'on parle emploi. Arnaud, ça le concerne aussi. On voit qu'il y a de grosses difficultés et qu'il y a de plus en plus d'emplois menacés. Alors, il y a toujours cette espèce de 100 000, 200 000, 300 000 emplois menacés. Bérénice, on en est où du côté des professionnels de cette construction?
Alors, construction et puis même plus globalement logement, ce serait 300 000 emplois qui seraient menacés d'ici mai 2025. Donc ça, c'est selon la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. Après, ils se basent vraiment sur les chiffres de mise en chantier, les autorisations. Pour vous donner quelques chiffres, moins 28,6% de mise en chantier ont été constatées sur 12 mois par rapport à l'année dernière. Donc c'est non négligeable. Et quasiment moins 28% d'autorisations sur 12 mois aussi par rapport à l'année dernière. Et ce qui est alarmant, c'est que donc ça, c'est pour le logement neuf. Et il y a aussi le non-résidentiel qui est impacté. Donc, le non-résidentiel, c'est quoi ? C'est la construction de bureaux, d'hôtels,
commerce,
ouais. Les administrations. Et là, pareil, on constate moins 11,2% de surface non-résidentielle commencée par rapport à la même période d'un an auparavant. Donc, ça, c'est sur trois mois, de novembre dernier à janvier. Et puis, moins 14,7% de surface non-résidentielle autorisée sur cette même période.
Bérénice, ça, c'est pour le constat. On sait tous que globalement ça va pas. Maintenant on fait quoi? Parce qu'on n'arrête pas de dire le gouvernement n'en fait pas assez, mais qu'est-ce qu'on nous propose en parallèle?
Alors, le problème c'est que c'est une offre qui porte, c'est une crise qui porte donc sur l'offre
et
sur la demande, sur le prix du foncier et sur le coût de la construction. Pour l'instant le gouvernement a essentiellement parlé de l'offre, donc il y a des mesures qui ont été annoncées pour
résoudre
la crise de l'offre. Là ce que dit le président de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment, hein, qui a quand même les pieds un peu sur terre, hein, sur les chantiers. Concrètement, il dit qu'il faut faire des mesures fortes. Il faut réinstaurer le PTZ 2023, hein, donc le prêt à taux zéro. Je rappelle qu'il a été remodelé. Il exclut maintenant la maison individuelle. Il exclut des zones. Enfin voilà. Le FFB dit qu'il faut aussi assouplir les règles fixées par le HCSF, dont on parlait tout à l'heure, donc le Haut Conseil de Stabilité Financière. Il faut instaurer enfin le fameux statut du bailleur privé,
sachant que le Pinel disparaît, mais bien sûr.
Le statut du bailleur privé, ça permettrait d'avoir des avantages fiscaux aux propriétaires bailleurs ou aux Français qui veulent investir dans la pierre pour louer. Il faut donner aux Français envie d'investir dans la pierre, parce qu'on a besoin des propriétaires bailleurs pour loger des gens. Faut accélérer les travaux sur la suite du Pinel, hein, pour la FFB. Et puis, il faut une pause normative pour la RE 2020, la réglementation environnementale 2020. Et enfin, il faut des simplifications générales pour le secteur. Donc voilà pour les propositions de la FFB.
Caroline, le retour du PTZ, la non-disparition du Pinel.
Mais bien sûr, tout ça. Et on sait que ça.
Vous le voyez sur le crédit, je veux dire l'impact de ces modifications législatives intervenues dans le cadre des différents projets.
Bien sûr. Alors aujourd'hui, on le voit moins parce qu'aujourd'hui le crédit n'est plus vraiment une problématique. Le HCSF où ça pourrait ouvrir encore plus évidemment les primo-accédants, les investisseurs. Parce que le HCSF est vraiment très impactant sur l'investisseur, hein, qui achète pour louer, puisque les revenus finalement de sa location ne rentrent pas dans le calcul. Enfin, c'est un petit peu.
Oui, ils ont modifié le mode de calcul, ce qui fait qu'ils dépassent systématiquement le taux d'endettement.
C'est des patrimoniaux, hein, les gens qui ont de l'investissement locatif, c'est des gens qui à côté ont beaucoup de revenus. Et donc ça bloque. Mais en dehors du HCSF, c'est vraiment ces aides à l'accession qui sont primordiales. Alors il faut. J'ai un peu peur que le gouvernement joue la montre et que espère que les conditions de taux vont refaire un peu relancer la machine.
Alors le gouvernement, c'est Bercy, hein, parce que c'est vrai que Guillaume Kasbarian, le nouveau ministre du Logement, il faut lui reconnaître qu'il a envie.
Il est zélé quand même.
Ouais, il a envie, il est motivé, il fait des annonces, il est investi, il se déplace. Il y a une énergie qu'il n'y avait pas chez les précédents ministres du Logement, faut le dire. Et Gabriel Attal aussi s'est emparé du sujet du logement, on en a parlé, c'est la première fois qu'un premier ministre en parle ouvertement comme ça.
Donc, rappelez-nous qui préside ce haut comité.
Le conseil, c'est Bruno Le Maire. Et c'est vrai que c'est lui qui aura le dernier mot, c'est Bercy, et puis c'est le gouvernement aussi, Emmanuel Macron.
Oui, c'est d'autant plus incompréhensible, c'est que c'est des systèmes qui s'autofinancent. Hein. Le PTZ, ça a été salué par la Cour des comptes, donc c'est vraiment des systèmes qui s'autofinancent, donc c'est vraiment incompréhensible.
Alors je dis à Jean-Philippe qui m'a écrit sur Twitter et qui me dit que la seule solution pour faire repartir le marché, c'est la baisse de prix. On est assez d'accord, Jean-Philippe, pour l'instant, on est assez d'accord. Le problème, et c'est justement la question que j'ai envie de vous poser, à toutes les deux, hein, d'ailleurs, hein, Bérénice, Caroline, on dit que les taux, ça va mieux, le crédit, ça va mieux. Ces vendeurs qui avaient du mal à être convaincus l'année dernière de baisser leurs tarifs, est-ce que finalement, ils ne sont pas un petit peu plus incités, là encore plus, en ce début d'année 2024, à se dire bon, puisque les conditions d'emprunt sont meilleures, pourquoi j'irais baisser le prix de mon bien immobilier? Est-ce que le risque de cette petite machine qui repart...
Donc, si on formule, c'est les vendeurs n'ont pas intérêt à baisser leur prix.
C'est pas qu'ils n'ont pas intérêt, c'est qu'ils n'ont pas envie de baisser leur prix. Ils pourraient croire que voilà, la baisse des taux suffirait à...
Quand les taux baissent, les prix montent. C'est un système, c'est mécanique. Et c'est vrai que, bah, personnellement, c'est ma crainte. Pourquoi les vendeurs vont baisser leur prix, sachant que les taux baissent? Bon, certains professionnels disent que non, les prix vont baisser, etc. Personnellement, j'y crois pas. Mais,
Caroline?
Non, moi non plus, j'y crois pas. Il y a deux choses dans l'équation. Il y a le prix du logement et il y a le taux de votre crédit. Et en fait, finalement, il y a deux choses qui vont baisser quand vous faites une acquisition. Il y a deux choses qui peuvent bouger. Une seule chose qui peut bouger quand vous faites votre acquisition, c'est le taux de crédit. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous allez acheter un logement. On est quand même bas, on peut négocier parce que les vendeurs veulent vendre, hein, aussi ceux qui sont obligés, mais ils veulent vendre.
Il y a de plus en plus de vendeurs pressés, on en parle.
On est sur du moins 10. Ils ont peur qu'il y ait encore une autre baisse des prix, mais qui n'arrivera pas forcément. Donc, vous pouvez négocier votre immobilier et vous allez l'acheter. Et ça va être un prix fixe, hein, toute votre vie. Par contre, votre crédit immobilier que vous allez avoir aujourd'hui, si vous êtes un très beau profil, 3,50 ou 3,70, vous, quand il y aura à peu près 1% d'écart, que les taux auront bien baissé, vous pourrez le renégocier.
Donc,
il ne faut pas attendre un
point
bas.
C'est ça, votre théorie, Caroline, c'est on n'a aucune certitude sur l'orientation des prix. En revanche, ce que vous savez, c'est que le taux pourra être négocié s'il baisse.
Exactement.
Et donc, votre conseil, c'est si c'est votre moment, n'attendez pas forcément, n'essayez pas de faire un calcul mathématique.
Si c'est votre maman, si vous avez trouvé le bien, si c'est le bon moment, si vous avez fait votre courtier vous a aidé à trouver le meilleur taux, allez-y parce que vous pourrez le renégocier. Par contre, quand un jour les taux de crédit seront encore meilleurs, les prix de l'immobilier ne baisseront plus. La pénurie de logement, si on finance pas la nouvelle construction de logement, si on finance pas l'investissement locatif, il y aura une pénurie de logements dans les 2 à 3 ans. Et là, les prix de l'immobilier, il va falloir, comme on a connu à une certaine période, se battre pour avoir l'appartement, avoir des prétendants à l'acquisition et puis des vendeurs qui choisissaient.
Une réflexion, si vous voulez bien, pour conclure cette émission de Franck. Un autre Franck. On a beaucoup de Franck, on a beaucoup de Michel qui nous écrivent. C'est vrai. Mais un autre Franck. Franck B, qui nous suit régulièrement. Pour conclure, peut-être, il nous dit, les taux baissent, oui, mais le problème, surtout, c'est que il faut une baisse de prix, mais beaucoup d'agents immobiliers n'ont connu que la hausse. Est-ce que les agents immobiliers savent gérer la stagflation, voire la baisse du marché?
Alors moi, je vais lui répondre honnêtement, oui, il y a eu avec les taux à 1% l'émergence de plein d'agences immobilières nouvelles et de vocations nouvelles pour le marché de l'immobilier. Le fait est qu'il y a quand même un corps de métier qui existe depuis très longtemps. Vous le voyez assez régulièrement sur nos antennes respectives. On a des gens qui sont dans le métier depuis 20, 30, 40 ans. Le patron d'Orpi était cette semaine chez nous. C'est des gens qui ont un peu de bouteille, qui ont vécu des crises, qui s'en sont relevés. Alors évidemment, pour certains, ça va être dramatique parce qu'effectivement, ils ne sont arrivés que récemment sur le secteur. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ne savent pas faire. Et bien au contraire, et c'est ce qu'on disait avec Caroline sur les courtiers, mais ça, c'est ma conviction profonde, c'est en période de crise qu'on revalorise certaines compétences et certains métiers. Exactement. C'est le cas des courtiers. C'est peut-être le cas des banquiers parce que je sais que je ne suis pas forcément très tendre avec eux aussi. Mais c'est certainement le cas des agents immobiliers qui, là, traversent quand même une période très compliquée et qui sont en position de faire valoir leurs compétences et leur expertise.
Caroline?
Oui, non, mais je suis d'accord. Hein. Et puis les agents immobiliers, ils se rémunèrent à la vente, des biens. Donc c'est contre-productif de prendre plein de mandats et de jamais réussir à les vendre.
Ouais.
Donc un agent immobilier, il doit conseiller son client pour lui trouver, lui dire voilà le marché ce qu'il est aujourd'hui par rapport à votre bien, la fourchette de prix et puis la rencontre avec l'acheteur. Comme dit Marie, c'est un sacré boulot d'expert. Et c'est là où on verra les meilleurs qui continuent vraiment à poursuivre leur route.
Bérénice, le mot de la fin?
Non, oui, vous avez cité Orpi aussi, Century 21. Je me suis rendue à la convention nationale ce week-end et c'est vrai que eux, ils sont sur le marché depuis 87 en France. Et pareil, des crises, ils en ont connu. Et c'est vrai que les grosses machines, on voit que c'est elles qui résistent. Hein, les agents immobiliers, c'est eux qui résistent comparé aux autres modèles qui sont apparus récemment pendant justement cette montée remontée des prix. Mais non, je pense que c'est important de se faire accompagner par des bons professionnels, surtout que l'achat d'un appartement, c'est pas n'importe quoi.
C'est l'achat d'une vie, ouais.
C'est l'achat d'une vie. Et quand on connaît pas forcément, quand c'est pas notre métier, il faut faire appel à des professionnels. Ouais.
Voilà, merci mesdames pour ce tour d'horizon. Caroline Arnoux, directrice générale de CAFPI, Bérénice Deville Florio, directrice en chef de Radio Immo. Et puis vous, Marie Cœur de Roy, et nos nombreux auditeurs, vous avez vu nos deux Franck B, Franck NH, Arnaud, entre autres, et puis tous ceux qui nous écrivent au fil des émissions. Merci pour vos questions, elles viennent alimenter la pompe à questions, et puis la discussion, vous l'avez vu quand on peut, notamment Jérôme qui nous dit que ça pourrait être une idée de consulter le PLU de la ville de Paris. Madame Hidalgo veut transformer les bureaux en logements sociaux et les bureaux en périphérie. Qu'en pensez-vous?
Eh bien, c'est une réponse. Moi, je dirai rien, je vais encore me faire insulter, alors je ne dirai rien.
Cher Jérôme, merci pour votre message, on vous répondra la semaine prochaine.